Bonjour à toutes et à tous. Nous irons au Venezuela dans ce journal où, en plein chaos politique, le président toujours en poste, Nicolas Maduro, a une nouvelle fois dévalué le bolivar. En Égypte, Emmanuel Macron a lui évoqué la question des droits de l'homme et notamment ceux de la minorité copte avec son homologue, le maréchal Sissi, nous dira Bertrand Galichet. Et puis en France, la loi anti-casseurs est étudiée à partir d'aujourd'hui par les députés, un texte édulcoré en commission par rapport à sa version initiale. L'opposition se prépare à manifester, l'armée est appelée à déserter. Au Venezuela, la situation politique est plus que jamais chaotique pour le président Maduro qui, furieux après l'annonce hier de nouvelles sanctions de Washington sur le pétrole vénézuélien, a promis que si le sang coulait dans son pays, ce serait de la faute de Donald Trump. Les manifestations d'opposants ont déjà fait au moins 35 morts et le naufrage économique continue. Lui aussi, une nouvelle dévaluation de la monnaie a été annoncée hier. Le bolivar perd 35% de sa valeur par rapport au dollar. Le taux de change officiel rattrape ainsi le taux parallèle et permet au régime de garder le contrôle sur sa monnaie. La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
Ces derniers mois, changer de l'argent au marché noir était jusqu'à 30 fois plus avantageux à cause du très strict contrôle des changes et des devises en vigueur au Venezuela. Ce contrôle, installé en 2003 en plein boom pétrolier, visait à rendre plus complexe l'accès au dollar pour les particuliers et les entreprises, afin qu'ils préfèrent utiliser le bolivar. Mais avec la crise économique et l'hyperinflation, tous les Vénézuéliens se sont tournés vers le marché noir pour se débarrasser de leur bolivar, dont la valeur se dépréciait chaque jour, et récupérer des dollars plus stables. Ce système de contrôle contesté a donc enfin sauté, mais trop tard, à en croire une série de tweets de l'économiste Asdrubal Oliveros du cabinet EcoAnalytica. L'inflation est stratosphérique, 10 millions de pourcents selon les FMI en 2019, donc les Vénézuéliens n'ont plus aucune confiance dans leur monnaie. Et sans cette confiance, le bolivar va continuer d'être échangé contre des dollars et l'inflation va repartir de plus belle.
Benjamin Delisle, on pensait son sort réglé, mais la Cour suprême pakistanaise doit confirmer aujourd'hui la décision qu'elle avait prise au sujet d'Asia Bibi, cette chrétienne restée des années dans le couloir de la mort pour blasphème. C'était en 2010, suite à une dispute avec des voisines pour un verre d'eau. Acquittée fin octobre, la jeune femme doit attendre cette confirmation avant de pouvoir enfin quitter son pays. À Islamabad, la correspondance de Solène Fioretti.
Ce pourrait bien être le dernier volet d'une saga judiciaire vieille de 9 ans. Asia Bibi, mère de famille d'une cinquantaine d'années, n'a jamais été aussi proche de la libération. Le 31 octobre dernier, la Cour suprême acquitte la chrétienne, estimant dans un verdict très détaillé que le dossier d'accusation est vide. On peut y lire que les témoignages des accusés se contredisent et que les aveux d'Asia Bibi ont été retirés sous la contrainte. L'affaire semble pliée. Mais c'était sans compter sur un énième rebondissement. Quelques jours après le verdict, des émeutes menées par des islamistes radicaux font plier le gouvernement. Ils seront autorisés à déposer un recours contre l'acquittement. Il semble pourtant peu probable que le panel des juges d'aujourd'hui, quasi identique à celui qui avait décidé du verdict, revienne sur son jugement. Historiquement, la Cour suprême est la plus clémente sur les affaires de blasphème. Asia Bibi pourrait donc être libre dès ce soir. D'après son avocat, elle compte rejoindre ses enfants au plus vite, tandis qu'elle était maintenue en résidence surveillée, probablement cachée dans la capitale. Son mari et ses filles ont fait les frais de son acquittement. Plusieurs associations chrétiennes ont affirmé qu'ils avaient été traqués par des militants islamistes avant d'obtenir des visas pour l'étranger. Si plusieurs pays européens, dont la France, ont manifesté leur bonne volonté pour l'accueillir, c'est probablement au Canada que compte se rendre Asia Bibi, devenue grande icône des dérives de la loi anti-blasphème au Pakistan.
Les droits de l'homme en Égypte et notamment ceux de la minorité copte, vaste sujet que le président français avait promis d'aborder avec son homologue le maréchal Sissi lors d'une visite entamée hier et qui se poursuit aujourd'hui. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron refusait, dit-il, de donner des leçons en la matière. Cette année, les choses ont apparemment changé. Le récit au Caire de notre envoyé spécial Bertrand Galichet.
C'est un choc des cultures qu'Emmanuel Macron a décrit hier soir en évoquant les difficultés et les progrès de la relation franco-égyptienne sur les questions de société. Le président français revenait du chantier de la future capitale administrative à une soixantaine de kilomètres du Caire qu'il a visité en compagnie de son homologue égyptien.
La question des droits de l'homme, j'en ai abondamment parlé et avec le président Sissi. Sans rien oublier non plus de la difficulté liée au contexte de la région et des gestes qui sont faits. J'ai vu tout à l'heure la cathédrale qui vient d'être ouverte pour les Coptes. Il y a encore 4 ans, 5 ans, ceci n'était pas acquis.
Une manière de rendre hommage sur ce point au régime égyptien qui protège la communauté copte forte de 10 millions de personnes. Emmanuel Macron rencontre ce matin le pape copte orthodoxe, représentant d'une tendance religieuse plutôt libérale, avant de s'entretenir avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar, un musulman modéré, favorable au pouvoir en place. Loin des micros et des caméras, le président français recevra ensuite à la résidence de France des ONG, souvent dans le collimateur du régime égyptien.
Bertrand Galichet. En France, la loi dite anti-casseur arrive dans l'hémicycle aujourd'hui. Souhaitée par le gouvernement, issue des rangs de la droite, elle a été largement retoquée en commission car elle provoque des remous au sein même de la majorité. Un texte trop remanié, selon la droite, pas assez, selon la France insoumise. Le député LFI du Nord, Hugo Bernalicis, écoutez-le, interrogé par Rosalie Lafarge.
Ce sera une opposition frontale, article par article, de bout en bout. Parce que, par ailleurs, il y a déjà suffisamment de choses en termes d'arsenal répressif dans le droit actuel. Il y a tout ce qu'il faut et même déjà trop. Si quelqu'un est violent en manifestation aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut dans la loi pour l'interpeller, le déférer, le placer devant le magistrat et éventuellement le mettre en prison. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus, si ce n'est de mettre des formules étranges qu'on utilise d'habitude pour les terroristes, qui sont déjà suffisamment douteuses, du type « si nous avons des raisons sérieuses de penser que ». On est en train de passer d'une justice où on va constater des faits à comportements, une dangerosité. On est en train de basculer dans un autre univers, qui est celui plus de George Orwell que de la République. Et puis quand vous en venez à dire qu'il faudrait peut-être interdire les flashballs et les grenades GLI F4, comme le réclame le défenseur des droits, qu'on vous traite de fou et que vous mettriez en danger les policiers et les gendarmes, en l'occurrence, ça aurait juste pour effet qu'il n'y ait plus de mutilés et de blessés graves, de gens qui perdent un œil, de gens qui perdent une main. Donc, à un moment donné, il faut garder la raison. S'ils veulent une escalade de la violence et de la radicalisation, qu'ils fassent comme ça. C'est la mauvaise direction. Nous, on est pour la désescalade, on est pour que les choses se passent tranquillement et pacifiquement. En tout cas, le gouvernement n'aide pas.
Le député de la France insoumise, Hugo Bernalicis. L'administration française a rejeté hier le plan social de Ford dans son usine de Blanquefort en Gironde, un PSE qui prévoyait la fermeture du site. La direction du travail ne l'a pas homologué, ce qui signifie un petit répit pour les 870 employés de l'usine et la possibilité pour un repreneur d'affiner encore son offre de reprise, une reprise qui avait été refusée par Ford mi-décembre. Les prétendants à la mairie de Paris, pour La République En Marche se mettent en ordre de marche. Justement, hier, la majorité d'entre eux s'était donné rendez-vous au théâtre du Trianon à Paris pour la conclusion de travaux sur ce qu'attendent les Parisiens en vue des prochaines municipales, des travaux qui doivent permettre au parti présidentiel de se donner une ébauche de programme pour ravir la capitale au PS. Le reportage de Maxime Fayolle.
Les marcheurs ont isolé plusieurs grands thèmes, ceux auxquels les Parisiens sont le plus sensibles. Le premier, c'est l'espace public, c'est-à-dire la propreté et l'insécurité. Le second point, les transports et la pollution. Et le dernier, la solidarité et la lutte contre la solitude. Un diagnostic somme toute assez logique, mais qui est une bonne base pour Mounir Majoubi, l'un des candidats déclarés à l'investiture au sein de La République En Marche.
Il y a plusieurs étapes, là il fallait faire le diagnostic. On a les groupes de travail qui ont commencé à poser les bases de ce que pourrait être notre projet. Maintenant qu'on a une vision plus claire de ce que veulent les Parisiens, il faut qu'on aille retourner avec des idées, qu'on les fasse grandir, qu'on puisse échanger et que comme ça, dans les prochains mois, on aura une tête de liste et avec cette tête de liste, on aura un projet et ce sera le meilleur moment pour démarrer notre campagne.
Il faut dire que pour le moment, le parti voit flou sur sa tête de liste. Ils sont 6 à briguer l'investiture, alors de là à créer quelques tensions, c'est au contraire une bonne chose, estime le député de l'Essonne, Cédric Villani, lui aussi candidat.
Il y a au mieux une accusation de démocratie forte, qui dit qu'il y a pas mal de monde qui est reconnu comme légitime et qui va rechercher à être en phase avec le collectif qu'une situation dans laquelle il y aurait un seul candidat désigné et qui serait un déni de démocratie.
À plus d'un an de l'élection, le parti semble avoir beaucoup misé sur la capitale où Emmanuel Macron a réuni 35% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a un coup à jouer, reconnaît Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
C'est très important pour évidemment un mouvement comme le nôtre parce qu'on a un ancrage parisien très marqué. Le but du jeu, c'est pas de dire regardez, on a gagné une, deux ou trois villes. Si on considère que dans des endroits, les maires ont bien fait le boulot, on les accompagnera. C'est pas le cas à Paris. On considère qu'on peut changer les choses, qu'on peut améliorer la vie des Parisiens et que ça permettra de transformer le pays encore plus vite. Ce sera une bonne chose.
Reste à savoir qui, parmi ces trois favoris, mais aussi Hugues Granson, Julien Bargeton ou Anne Le Breton, sera désigné tête de liste. Réponse après les élections européennes.
Maxime Fayolle, le temps de ce mardi, 41 départements des trois quarts ouest du pays sont placés en vigilance orange avant l'arrivée de la tempête Gabrielle. Elle va traverser le pays d'ouest en est. De la pluie, du verglas et de la neige sont à prévoir, du vent aussi sur la côte atlantique. Journée plus calme sur l'est. Les températures ce matin entre 0 et moins 4 degrés sauf en Bretagne et dans le sud-ouest, et cet après-midi il fera de 6 à 10 degrés de la Bretagne et du centre au sud-ouest, de 9 à 13 degrés près de la Méditerranée, de 1 à 6 degrés ailleurs.